Vous écoutez RFI, il est 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Arthur Ponchelet. Bonjour Arthur.
Bonjour Marion et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce matin, pour l'opposition, c'est toujours non. Et du côté de la majorité, la division règne. En RDC, les consultations pour former un gouvernement d'union nationale reprennent aujourd'hui. On fait le point sur ces discussions qui ont démarré il y a une semaine dès le début de ce journal. Quel impact pour l'interdiction de la coopération avec la Belgique pour les ONG rwandaises? Trop tôt pour le dire, disent les organisations concernées. Mais elles sont inquiètes. À Kigali, le gouvernement dit qu'il comblera le vide dans les secteurs critiques. Coup d'envoi ce week-end de la campagne présidentielle au Gabon. On vote le 12 avril prochain pour élire un ou une présidente. Mais vous l'entendrez, les Gabonais sont loin d'être emballés par le scrutin qui ne suscite pas d'enthousiasme dans les rues de Libreville. Au sommaire également, on revient sur la grâce accordée ce week-end à Moussa Dadis Camara en Guinée. Sur cette nouvelle taxe instaurée par les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et puis notre dossier ce matin est cette question qui prend les décisions dans les ménages congolais. Les femmes sont associées dans la moitié d'entre elles, dit une étude. Faux, répondent les organisations féministes qui demandent plus de sensibilisation. Félix Tshisekedi parviendra-t-il à former un gouvernement d'union nationale? Le président congolais a entamé des consultations la semaine dernière. Elles reprennent aujourd'hui à Kinshasa. Une large partie de l'opposition boycotte toujours ces discussions, leur préférant celle des églises catholiques et protestantes. La majorité, elle, estime que l'union nationale est nécessaire face à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Pascal Moulégua, où en sont ces consultations?
Jusqu'ici, seuls les caciques de la majorité au pouvoir ont été consultés par les conseils spéciaux du président en matière de sécurité. Mais même au sein de la majorité, il y a débat sur la démarche et les objectifs. Certains veulent conserver leur place au sein du gouvernement, alors que d'autres attendent une meilleure représentation au sein de la future équipe. Modeste Ebahati, numéro 3 du Sénat, la tête de l'un des principaux regroupements de la majorité, a insisté dès les premiers jours sur le poids de chacun dans la formation du gouvernement attendu. Il a mis en garde contre les débauchages dans un climat, je cite, « des floraisons, des flatteurs et des courtisans ». Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a demandé de ne pas s'écarter des objectifs, réunir opposition, majorité et les belligérants dans un processus plus inclusif pour la paix dans l'Est. Mais pour d'autres caciques, il faut afficher une priorité, la reconquête du territoire occupé par les M23 AFC. Les organisateurs doivent recevoir cette semaine d'autres élus de la majorité, des organisations de la société civile et des membres de l'opposition. Jusqu'ici, tous les poids lourds de l'opposition rejettent la démarche et défendre la médiation des églises pour fédérer les pays. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Pendant ce temps, dans l'Est de la RDC, pour la première fois en 3 ans, la cérémonie de l'Aïd a été célébrée hier à Goma. Des centaines de personnes étaient réunies au stade de l'Unité, une grande prière à laquelle les autorités provinciales de l'AFC M23 ont aussi participé. Le parrain du groupe armé, le Rwanda, lui, est toujours la cible de critiques d'une partie de la communauté internationale. De nombreuses chancelleries occidentales pointent du doigt le soutien de Kigali au M23. C'est le cas de la Belgique, par exemple. Et cela a provoqué la colère du Rwanda, au point de rompre les relations diplomatiques avec l'ex-puissance coloniale le 17 mars. 10 jours plus tard, Kigali a même décidé d'interdire toute forme de coopération entre la Belgique et les ONG, organisations religieuses ou fondations opérant au Rwanda. Lucie Mouillot, cette mesure à effet immédiat est accueillie avec inquiétude par les organisations concernées.
On ne s'attendait pas à ce que la rupture diplomatique touche la société civile, regrette le responsable d'une organisation partenaire de la coopération belge. La majorité de ses activités sont désormais suspendues dans l'attente de nouveaux fonds pour les reprendre. Au Rwanda, l'agence de développement belge Enabel prévoyait jusqu'en 2029 un budget de 95 millions d'euros dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'urbanisation et plus de 17 millions dans des projets sur la protection sociale. Pour certaines ONG déjà impactées par la suspension mondiale des aides américaines, certitude plane sur la continuité des programmes. Il est encore trop tôt pour parler des conséquences, affirme le directeur d'une organisation à la recherche de solutions auprès d'autres partenaires, mais le contexte tendu des sanctions est inquiétant, poursuit-il, craignant d'autres mesures similaires avec d'autres pays. Commentant la rupture des relations diplomatiques, le ministre rwandais des Finances, Youssouf Mourangwa, a la semaine dernière affirmé ne pas être inquiet et que le vide laissé dans les secteurs critiques sera couvert par le gouvernement. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Au moment venu, j'aviserai, les mots de Faustin Archange Touadéra, hier le président centrafricain, laisse planer le suspense sur sa possible candidature à un troisième mandat. Des milliers de personnes, 20 000 selon son parti, étaient en tout cas réunies hier pour le réclamer. C'était au stade Barthélemy Boganda de Bangui. L'opposition, réunie au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution, a prévu une grande marche vendredi contre un troisième mandat du chef de l'État. Eux briguent tous un premier mandat à la tête de leur pays. Les candidats à l'élection présidentielle gabonaise ont lancé leur campagne respective ce week-end. On vote le 12 avril prochain pour élire un ou une présidente de la République. Mais à Libreville, la mobilisation est timide pour l'instant. Peu d'enthousiasme dans les rues de la capitale. C'est ce que racontent certains habitants qu'Yves Laurent Goma a rencontré.
Dans ce bar du rond-point de la démocratie, des Librevillois sont attablés par petits groupes. Tous déplorent un début de campagne trop timide.
Je n'ai encore rien senti.
Tu ne vois rien?
Je ne vois rien.
On a vécu des campagnes à l'époque des bongos. C'était la fête, c'était le dégagement, on buvait, c'était le show.
Si on élimine les panneaux publicitaires et qu'on fasse dans le concret, c'est ce qu'on veut.
Tous les gadgets qu'on imprime pendant la campagne dans un pays comme le nôtre où les femmes accouchent par terre, les élèves sont serrés dans les salles de classe, on n'a pas d'eau courante, on n'a pas d'électricité, c'est encore trop de mon point de vue.
Sur les avenues de la capitale, les affiches de Brice Clotaire Oli Gingema sont visibles en grand nombre, mais certains espaces publicitaires sont toujours vierges. Christelle Coy est la porte-parole du candidat.
Les prescriptions légales en matière de plafonnement des dépenses électorales obligent le candidat à contrôler les dépenses.
Dans les QG de campagne de sept autres candidats, on explique avoir privilégié la communication sur les réseaux sociaux pour limiter les dépenses et protéger l'environnement. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
6h37, en temps universel. Le grand titre de l'actualité de ce week-end, c'est la grâce accordée à Moussa Dadis Camara en Guinée. L'ancien dirigeant avait été condamné l'an dernier pour crime contre l'humanité lors du procès du massacre du 29 septembre 2009. Cette décision survient deux jours après l'annonce par le chef de la junte, le général Doumbouya, de la prise en charge des frais d'indemnisation des victimes du massacre. Alors comment analyser cette grâce? Écoutez la réponse de Cabinet Fofana. Il est directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques.
Ça peut bien se comprendre que les victimes y voient un goût inachevé dans la démarche. Quand on sait déjà que le capitaine Moussa Dadis Camara a été condamné pour 20 ans, il en a fait que 8 mois, cela peut bien se comprendre. Après, est-ce que cela peut avoir une répercussion politique? Oui, bien évidemment, parce que le capitaine Moussa Dadis Camara, devrais-je le dire, reste encore un personnage important, ou sinon le plus important d'un point de vue politique au niveau de la Guinée forestière.
Donc on peut y voir un calcul politique derrière cela?
Oui, possiblement, ou même si le calcul n'est pas foncièrement politique, mais il peut avoir des bénéfices politiques. Et ce bénéfice politique-là, c'est le fait quand même de contenter aujourd'hui tous ceux qui se reconnaissent au capitaine Dadis Camara. On a vu les liesses populaires que cela a augré. Il va sans dire que ceci va changer la dynamique ou possiblement la façon de voir le colonel Mamadi en Guinée forestière.
Propos recueillis par Pierre Firsion. Cette grâce de Moussa Dadis Camara a été accueillie avec joie chez ses partisans, mais suscite la colère de l'opposition et d'une partie de la société civile. Toutes les réactions à lire sur RFI.fr. Le Niger quitte la force multinationale mixte, cette alliance stratégique chargée de lutter contre les groupes djihadistes dans le bassin du lac Tchad, regroupe aussi le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Niamey dit vouloir redéployer ses troupes autour de ses infrastructures pétrolière menacée par les groupes armés. Le Niger et les autres pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina et le Mali ont décidé d'instaurer une taxe 0,5% sur les importations des pays tiers. Baptisée prélèvement confédéral AES, elle ne devrait pas concerner les pays voisins de l'UEMOA. Claire Fache, c'est plutôt le transfert d'une taxe déjà existante aux frontières extérieures de la CEDEAO pour financer les activités de la Confédération.
Le document est signé par Assimi Goïta, le chef de la junte malienne et président de l'Alliance des États du Sahel. Il institue un prélèvement confédéral de 0,5% sur les marchandises importées des pays tiers vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette taxe ne s'appliquera pas aux marchandises des pays de l'Alliance ou en transit, ni aux marchandises d'un État membre d'une union douanière avec les pays de l'AES, précise le texte. En théorie, ne seront donc pas taxés les produits des autres pays de l'UMOA, dont les pays de l'AES font toujours partie et avec lesquels ils ont toujours une liberté de circulation des biens et des personnes, malgré leur retrait de la CEDEAO. Il s'agira plutôt du transfert d'un prélèvement douanier du même taux déjà existant aux frontières extérieures de la CEDEAO que les pays de l'AES conserveront pour le fonctionnement de l'Alliance au lieu de le restituer à l'Organisation régionale ouest-africaine. Le ministre malien de l'économie a tenu à rassurer, pour les usagers maliens, ça n'impacte pas du tout le coût des denrées qui sont importées. Il n'est pas précisé si les produits du Ghana et du Nigeria, non membres de l'UMOA, subiront la taxe.
Claire Fage, le Mali et le Niger qui ont célébré hier l'Aïd el-Fitr, les musulmans du Tchad, de la RDC et de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont aussi rompu le jeûne ce dimanche au Burkina Faso, à Madagascar ou encore au Cameroun. C'est ce soir que s'achève le mois de Ramadan. Et pour célébrer l'Aïd comme il se doit bien souvent sur le continent, ce sont les femmes qui décident de l'organisation des festivités. C'est le cas par exemple en RDC où l'on se pose cette question ce matin. Qui prend la majorité des décisions au sein des ménages congolais? On y consacre notre dossier sur RFI. Selon l'Institut National des Statistiques, près de la moitié des femmes mariées participent à la prise des décisions au sein de leur ménage. Un chiffre jugé élevé par rapport à la réalité par les organisations féministes. Correspondance à Lumumbashi, Denise Maéo.
Selon l'Institut National des Statistiques, INS, 48% des femmes prennent part à la prise d'au moins trois types de décisions dans leur foyer. Celles sur les visites familiales, celles sur les achats de la maison, ainsi que celles sur leur santé. Mais pour Myriam, une employée dans un établissement public, ce n'est pas le cas. L'homme prend toutes les décisions.
Même si vous accordez, c'est quelque chose donc de vastement s'imposer. Après, c'est lui qui va faire ce qu'il veut.
Âgée d'une quarantaine d'années, Charlotte, elle, est encore ancrée dans la coutume. L'homme a tous les droits, dit-elle.
Mon papa, on a quelques décisions à revoir, capacité de se fournir.
Le papa décide seul. Il est à la tête de la famille. Moi, je participe à la discussion lorsqu'il s'agit de la restauration ou encore de petits déplacements des enfants.
Maître Sylvine Colomoni, avocate au barreau de Lumbashi, juge elle aussi les chiffres de l'INS supérieurs à la réalité, car la plupart des femmes mariées vivent encore, selon elles, sous l'emprise de leur époux.
Sur 10 femmes que j'ai rencontrées, toutes les femmes, elles ne se sentent pas en fait considérées comme partenaires à la prise de décision au sein du ménage.
Toutefois, l'INS indique que les données varient d'une province à une autre.
La lutte pour les droits des femmes en République démocratique du Congo connaît des avancées ces dernières années, mais les défis à relever restent nombreux. Écoutez Bernadette Capend, elle est présidente du Réseau des femmes pour le développement.
Il y a des avancées grâce au travail de sensibilisation et d'encadrement de ménage et surtout les nouveaux codes de la famille, où beaucoup d'expertises des femmes ont été mises en contribution pour éradiquer toutes les discriminations qui existaient dans l'ancien code. Maintenant, le nouveau code de la famille accorde beaucoup d'importance à la femme. Mais le chemin est encore long à cause des obstacles liés au genre. Beaucoup de femmes ne savent même pas définir leurs responsabilités dans la gestion de leur ménage. Nous savons que les us et coutumes créent un autre style de femme. Quand on est éduqué pour se soumettre dans le ménage, la participation devient difficile.
Bernadette Capend, présidente du Réseau des femmes pour le développement, au micro RFI de Denise Maéo, qui signe ce dossier à retrouver sur notre site rfi.fr. Voilà pour le journal et je vous laisse avec Marion Cazeneuve pour la suite d'RFI Matin.